Les coqs chantent et les jours paraissent, tout se debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Aujourd'hui, dans le coq chante, il sera surtout question de bien-être animal. Et pour cela, nous avons rendez-vous à l'Institut national de la recherche agronomique à Paris. Avant d'aller plus avant, il nous faut répondre à cette question : qu'est-ce que le bien-être animal ? Première chose à retenir, les animaux sont des êtres sensibles. Ils sont intelligents et capables de ressentir des émotions telles que la douleur et la peur, ainsi que le plaisir et le bonheur. Le bien-être animal, au sens large, englobe non seulement la santé et le bien-être physique de l'animal, mais aussi son bien-être psychologique et la possibilité d'exprimer des comportements importants propres à son espèce. Le bien-être peut être décrit comme satisfaisant si les animaux sont en bonne santé physique et psychologique, se sentent bien et ne souffre pas, selon les cinq libertés. En effet, l'Organisation mondiale de la santé animale définit cinq principes fondamentaux qui composent ce bien-être animal. Ne pas souffrir de la faim et de la soif, ne pas souffrir d'inconfort, ne pas souffrir de douleur, de blessure ou de maladie, pouvoir exprimer les comportements naturels propres à l'espèce, ne pas éprouver de peur ou de détresse. À présent, le projet H2020. C'est un programme de recherche de 5 ans financé par l'Union européenne et coordonné par l'INRA. Ce projet a pour objectif de co-construire, grâce à une approche multi-acteurs mise en œuvre dans 9 pays par 23 partenaires, des innovations visant à améliorer le bien-être des volailles et des porcs élevés dans des systèmes de production biologique et plein air. Il impliquera des acteurs des chaînes de production, des citoyens, des scientifiques, pour proposer et étudier des leviers d'amélioration du bien-être animal. Les explications d'Anne Collin, chercheur à l'INRA, coordonnatrice du projet H2020.
Alors en fait, le projet s'appelle PILO, effectivement, c'est son acronyme avec sa définition en anglais. H2020, ça veut dire simplement qu'il est financé par l'Union européenne. Et nous avons choisi de travailler sur le porc et les volailles.
Mais pourquoi s'intéresser à ça? Parce que les éleveurs, bon, ils ont d'autres préoccupations.
Alors, c'est vrai que l'élevage, finalement, il faut trouver un compromis entre le fait d'élever les animaux pour pouvoir avoir des produits à consommer, donc dans notre cas, des œufs, de la viande, mais aussi, c'est un compromis avec, finalement, des attentes sociales, l'attention aux animaux, le fait que les animaux soient en bonne santé et que le produit soit de bonne qualité, que l'impact sur l'environnement soit le plus bas possible. Tout ça, ce sont des composantes en fait qui font partie du travail de l'éleveur et plus généralement des filières de production animale.
Je ne vous cache pas que j'ai visité des poulaillers où tout est bien rangé, chaque poule est dans son box, elle ne bouge pas. Toute sa vie, elle est là, dans une cage. Et moi, personnellement, ça m'a stressé.
Effectivement, alors ça, c'était dans des systèmes conventionnels. Bon, là, notre projet, lui, il est focalisé sur les systèmes biologiques et plein air, où justement, on donne accès, à partir d'un certain âge, en fait, au plein air, aux poules et aux poulets de chair.
Mais pourquoi les porcs et les poulets?
Alors, on aurait pu aussi s'intéresser à d'autres types de production, mais là où finalement l'accent a été mis le plus sur les marges d'amélioration du bien-être, c'était dans les systèmes de porcs et de volailles, justement, en lien avec soit cette exposition aux menaces extérieures sur les parcours, soit aussi en porc, en lien avec la volonté de plus en plus de ne plus castrer les porcs mâles.
Parce qu'on les castrait?
Oui, alors en fait, quand on ne castre pas les porcs, il y a une odeur de vera dans la viande, une odeur très forte, ce qui fait que il y a une castration des porcs qui est faite très jeune. Et en fait, dans les systèmes que nous étudions, nous voulons justement travailler sur les porcs mâles entiers qui ne sont pas castrés. Mais du coup, comme ils ont les hormones mâles, ils peuvent être un peu plus agressifs. Il peut y avoir aussi ce problème d'odeur dans la viande. Donc, on essaye de trouver des stratégies pour limiter ces aspects négatifs qui pourraient être liés à l'absence de castration.
Voilà. Si j'ai bien compris, ce programme pilote, c'est 9 pays européens pour le moment.
Oui.
Et plusieurs partenaires.
23 partenaires de 9 pays européens. On a des organismes de recherche, des instituts techniques, des associations aussi et des partenaires privés qui ont une stratégie en fait multi-acteurs, c'est-à-dire qu'on va travailler ensemble, discuter, mais aussi mettre en place ensemble des expérimentations de terrain pour tester des innovations et pour que les filières et les éleveurs puissent se les approprier.
Et vous avez 5 ans pour faire ces recherches-là.
Exactement. En fait, c'est un projet qui court sur 5 ans et on espère bien en fait que la stratégie pourra être continuée. Les groupes, justement, multi-acteurs de discussion pourront continuer à fonctionner au-delà de cette période.
Multi-acteurs, ça veut dire que chacun ne va pas travailler dans son coin, mais on va aller voir, on va échanger, on va essayer de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché.
Exactement. Et en fait, on va co-construire vraiment avec les acteurs de terrain des innovations qui seront testées avec eux, donc c'est-à-dire à la ferme, pour voir comment on peut, par exemple, élever les mâles des poules pondeuses qui, jusqu'à présent, n'étaient pas utilisées, donc étaient tuées. Donc ça, c'est vraiment une stratégie qui est élaborée notamment par mon collègue de l'Institut technique de l'agriculture biologique qui est ici.
Et les mâles des poules pondeuses étaient tués?
Comme les poules ont été sélectionnées pour faire des œufs, les mâles des poules pondeuses font moins de viande. Donc, en fait, si on veut les utiliser pour produire de la viande, eh bien, il faut trouver des façons de les élever au mieux. Voilà, et aussi des génétiques particulières.
Ce matin, il y a eu un mot, j'ai beau ne pas comprendre l'anglais, il y a eu un mot que j'ai beaucoup vu, et c'est expectation, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous attendez de tout ce travail-là, ces 5 ans?
Alors, ce qu'on attend vraiment, ce sont à la fois avoir des informations scientifiques solides pour que des innovations puissent être vraiment prises en charge par les éleveurs. Donc des nouvelles techniques, des nouvelles solutions génétiques, par exemple des croisements qui seraient meilleurs pour que les animaux explorent par exemple le parcours, ou que les animaux soient plus robustes, qu'on ait moins de pertes de porcelet à la naissance, et que ces innovations soient appropriées par les éleveurs en fait. Et donc on va faire en sorte que les éleveurs parlent aux éleveurs, les professionnels parlent aux professionnels, pour réussir à disséminer ces nouvelles pratiques.
Ah, donc d'abord, c'est au niveau de ce groupe-là, vous travaillez, vous arrivez à des conclusions, mais il faut que, au finish, les éleveurs puissent en profiter.
Oui, tout à fait. Le but, c'est vraiment de changer les pratiques à la ferme et dans les filières de production pour améliorer le bien-être des porcs et des volailles.
Je vous dis merci. Notre deuxième interlocuteur se nomme Antoine Rouen-Sahar. Il travaille à l'Institut technique de l'agriculture biologique où il est en charge des dossiers porcs et volailles. Prenons une minute pour dire un ou deux mots sur cette ITAB. Créée en 1982, c'est une association d'utilité publique dédiée au développement de l'agriculture biologique, membre de l'Association de coordination technique agricole. L'ITAB regroupe aujourd'hui 60 70 adhérents, représentants de l'ensemble des acteurs de la filière, 30 collaborateurs répartis dans 3 antennes. C'est le versant élevage de l'agriculture biologique. Pour l'écouter, on va tenter d'oublier que notre émission s'intitule « Le coq chante ».
Voilà, exactement. Donc après, notre institut, on travaille sur toutes les filières, donc aussi bien la transformation des produits, le vin, le maraîchage, les grandes cultures et donc aussi l'élevage.
D'accord. Alors, votre spécialité, ou alors, je ne sais pas, on m'a dit que vous alliez me parler de la volaille.
Oui, donc dans le projet PILO évoqué précédemment, donc j'anime une action, donc le World Package 5, et qui vise justement à essayer de trouver des alternatives à l'élimination des poussins mâles à la naissance, comme c'est pratiqué actuellement, les frères des poules pondeuses.
Ah, c'est-à-dire que dans l'élevage que moi je vois là quand je visite la ferme, c'est-à-dire qu'à la naissance, le mâle est éliminé parce qu'il ne sert à rien en fait.
Voilà, donc en fait, au niveau du couvoir, donc il y a différents types génétiques. On a des types génétiques qui servent à faire de la viande. Donc là, on peut utiliser les mâles et les femelles. Les deux ont des potentiels de production différents, mais les deux sont élevés ensemble, généralement. Et après, pour les poules pondeuses, en fait, on a un antagonisme entre la production d'œufs et la production de viande, comme pour les vaches laitières. Vous voyez une vache à viande, une vache laitière, elles n'ont pas du tout la même tronche. Il y en a une qui est maigre, qui fait plein de lait, en gros, et l'autre qui est plus costaud. Donc voilà, il y a un antagonisme de la même manière entre le lait et l'œuf, et ce qui fait que, comme on veut actuellement avoir une production très importante d'œufs, les types génétiques ont été sélectionnés au détriment d'une quelconque capacité à produire de la viande. Et donc, pour éviter un coût prohibitif de production en élevant les frères des poules pondeuses, du coup, ils sont éliminés à la naissance dans les couvoirs.
Ben, c'est normal, le coq, il fait pas des œufs, et si en plus, il fait pas beaucoup de viande.
Exactement. Et donc, du coup, ça pose évidemment des questions éthiques, parce que c'est pas du tout une situation qui est acceptable d'un point de vue éthique. Et donc, du coup, dans ce projet-là, on va travailler deux options pour éviter le recours à cette élimination. La première, ça va être d'utiliser des types génétiques alternatifs qui permettent d'avoir à la fois une production de viande et d'œufs, sachant qu'on sera surtout sur des modèles de production, on va dire, à créer, parce que voilà, les pondeuses, si le frère des poules pondeuses fait plus de viande, elles feront moins d'œufs, donc un coût de l'œuf supplémentaire. Donc il faut imaginer aussi un système économique et de filière qui permettent que tout le monde s'y retrouve, que ce soit le producteur d'œufs ou le producteur de viande, ou les deux, si c'est produit sur la même ferme. Et une autre option, c'est de réaliser du sexage dans l'œuf.
C'est quoi le sexage ?
Donc en fait, l'idée, c'est de, au lieu d'attendre que l'œuf soit éclos pour trier le mâle de la femelle, ce serait de le faire le plus rapidement possible après incubation. Et donc du coup, ce qui permet d'éviter ce souci d'avoir une élimination après l'éclosion.
Et comment vous comptez mener ces études-là sur ces 5 ans ?
Donc il y a, pour la partie génétique, il y a une première phase d'expérimentation dans 3 pays. Donc on va choisir ensemble des types génétiques à tester en lien avec des entreprises de sélection. Et on va caractériser très finement en station expérimentale l'efficacité alimentaire, le comportement, la capacité à explorer le parcours, etc., des différents types génétiques. Et ensuite, on les testera dans des fermes commerciales selon les objectifs des éleveurs. L'idée, c'est d'avoir une première description précise des types génétiques, parce que c'est pas des éléments qui sont disponibles pour l'instant, pour que les éleveurs puissent choisir ce qui leur semble le mieux correspondre à leurs objectifs. Et donc pour la partie sexage, donc là on a vraiment une échelle de recherche fondamentale en laboratoire pour trouver des marqueurs au niveau de l'œuf, pour pouvoir différencier les deux sexes le plus précocement possible. Et c'est aussi réalisé en partenariat avec des entreprises privées. Voilà.
Vous comprenez que je me demandais de m'expliquer tout ça parce que c'est dit en termes scientifiques. Et quand vous dites que des marqueurs, c'est-à-dire que il y a une espèce de loupe où quand je regarde l'œuf, je sais si c'est mâle ou femelle, ou bien je fais de la science-fiction.
On est plutôt sur des marqueurs, donc c'est plutôt des dosages chimiques. Donc l'idée, en fait, c'est d'avoir une technique. Grosso modo, l'objectif final, c'est qu'il y ait des œufs qui passent sur un tapis roulant, et que très rapidement on puisse savoir si dans l'œuf on est sur un individu mâle ou femelle.
Comment ?
Avec des marqueurs moléculaires. Donc du coup, telle molécule sera de l'œuf sera liée à la présence d'un mâle et telle molécule à la présence d'une femelle. Donc l'enjeu, c'est que ce soit des analyses chimiques très rapides et efficaces. Et le moins invasif possible, parce que s'il faut casser l'œuf en deux, ça marche moins bien.
Ah oui, parce que là aussi, il faut que ce soit. Il y a une idée de rentabilité.
Alors c'est pas forcément rentabilité, c'est plutôt plus des questions éthiques de pas gaspiller de la nourriture.
De pas gaspiller, ça veut dire de ne pas les jeter. Ouais,
c'est ça. Donc après, ça pourrait être éventuellement valorisé en alimentation animale, par exemple pour des porcs, pourquoi pas. Voilà. Après, il y a des.
Ah, ils ont utilisé les œufs pour alimenter les porcs.
Alors pourquoi pas, il y a des réglementairement c'est très compliqué d'utiliser des ce type de produits, mais voilà, après on peut plus se permettre de faire du gaspillage alimentaire aussi voilà à notre époque, et on pour l'instant n'est pas forcément prêt à manger des œufs incubés. Voilà. Donc il y a aussi cette question là qui sera à réfléchir des coproduits de la partie sexage.
Maintenant, l'histoire de la castration des porcs, là, je ne vous cache pas qu'en tant qu'homme,
ça doit être fait le plus précocement possible. Donc, généralement, c'est fait vers 3-4 jours. Voilà. Et donc,
dès qu'il est né, il est castré.
Voilà. Plus tôt c'est fait, mieux c'est. Sachant que ça reste difficilement acceptable. Donc là, l'idée dans le projet, c'est de travailler donc, sur l'élevage de malentiers, donc des animaux qui ne seront pas castrés. Et du coup, pour essayer de faire en sorte que l'élevage se passe correctement, donc éviter à la fois des saillies en fin de l'eau, parce que quand ils commencent à être âgés, les femelles peuvent être pubères, donc si on mélange les mâles et les femelles, il peut y avoir ces soucis-là. Si on mélange trop de mâles, il peut y avoir aussi des bagarres. Donc l'idée, c'est de proposer des techniques d'élevage qui permettent que d'un point de vue comportement des animaux, ça se passe bien, et aussi de limiter les risques d'apparition d'odeurs dans la viande, comme l'a dit tout à l'heure ma collègue.
Ah, c'est-à-dire sélectionner d'abord les races, là, les plus performantes déjà, et voir les meilleures façons de travailler.
Alors, pour les mâles, pas forcément les races les plus adaptées. Après, bon, l'idée, c'est de faire avec ce que font les éleveurs habituellement. Il y a des travaux sur sélectionner des porcs qui seraient moins odorants s'ils sont en mâle entier. Voilà, mais c'est des travaux de long terme. Nous, là, l'idée, c'est vraiment d'être sur les pratiques de l'éleveur, quoi. D'ailleurs, une grosse partie des expérimentations seront menées directement dans des élevages commerciaux.
Ah ben là, ça vous oblige pendant 5 ans à être avec l'éleveur pour voir comment ça se passe, son affaire.
Nous, on est un institut de recherche appliquée, en fait, donc le gros de nos travaux sont faits dans des vrais élevages, en fait. L'INRA fait la partie plus recherche fondamentale en station, mais nous, à l'ITAB, on n'a pas de station, on travaille directement avec des éleveurs.
Et vous en avez pour 5 ans aussi?
Oui, aussi. Et on l'a pour cette partie spécifique, ce sera nos collègues de l'IFIP qui mèneront le travail dans ce projet-là.
Nous, et c'est quoi l'IFIP?
C'est l'Institut du Porc, l'Institut Technique du Porc, donc l'équivalent de l'ITAB, mais dédié au porc et pour production bio et conventionnelle.
Ah oui, là, parce que là, j'ai écouté ce matin, c'est une réunion de grands cerveaux, là. Chacun est spécialiste dans son domaine.
Plus ou moins, après, l'intérêt d'avoir des projets multipartenariaux comme ça, en réseau, ça permet de valoriser effectivement l'expérience de chacun et surtout d'éviter de faire deux fois les mêmes choses. S'il y a des choses qui ont déjà été faites par Pierre, Paul ou Jacques, ça sert à rien de le refaire. Donc c'est aussi l'intérêt d'avoir ces projets diversifiés. Ça permet de bien prendre en compte tout ce qui a pu être fait, et aussi au niveau européen, on peut se baser sur les travaux des collègues d'autres pays.
Ou alors si moi j'ai fait une recherche, peut-être que il y a des paramètres, j'ai pas tenu compte, peut-être que j'ai pas bien mené, conduit les choses. Là, vous pouvez réintervenir.
Voilà, exactement. Ça permet aussi d'échanger sur les protocoles méthodologiques selon l'expérience de chacun.
Je vous remercie.
Merci.
Nous étions au siège parisien de l'Institut national de la recherche agronomique à l'occasion du lancement du projet H2020 de l'Union européenne, un projet de recherche de 5 ans sur le bien-être animal. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Ludivine Amado, au micro Sayouba Traoré. Pour retrouver cette émission, www.rfi.fr. Pour ceux qui veulent nous écrire, lecoqchante@rfi.fr. Et vous pouvez également consulter notre page Facebook, Le Coq Chante. Enfin, pour ceux qui veulent écouter cette émission sur leur téléphone mobile, vous téléchargez au préalable l'application RFI Pure Radio. Vous faites votre choix parmi les 14 langues et vous vous laissez guider.